Bonjour. C'est en 1638 qu'un prieuré de bénédictines est fondé par Urbain Maurice, marquis de Montéclair, et son épouse Marie de Froulé. C'est ainsi que nous allons aborder aujourd'hui l'histoire de la chapelle Saint-Joseph d'Évron. Dans un premier temps, les religieuses sont logées dans les bâtiments de la Hélotière, rue des Prés, pratiquement à l'emplacement de la salle des fêtes du cercle Saint-Joseph, transformée en cinéma Le Familial, puis en gymnase. La modeste chapelle des bénédictines fut démolie à la Révolution, mais la cloche fondue en 1715 semble avoir survécu et être dans le clocher de l'actuelle chapelle. La chapelle des bénédictines devait faire piètre figure, puisque Monseigneur de Jouffroy-Gonzan, évêque du Mans, menaça de l'interdire en 1780 comme peu convenable pour sa destination. En 1782, la première pierre de la maison Saint-Joseph est posée. Cet édifice était dans le prolongement de l'actuelle chapelle. Les religieuses avaient fait des économies pour bâtir une chapelle digne de leur communauté, mais la Révolution éclata. Les biens de la communauté furent séquestrés en 1791 et la vieille chapelle murée pour empêcher les fidèles d'assister à la messe. Couvents et terrains attenants sont vendus comme biens nationaux en 1793. Le prieuré servit tour à tour de mairie, de prison et de caserne. Il faut dire qu'au même moment, la chapelle Saint-Crépin servait de cave à vin. Il faut attendre 1859 pour que les bâtiments soient achetés par l'abbé Guillet pour réaliser un projet de création d'une école chrétienne pour les garçons. Il y avait une petite chapelle dans le parloir avec un retable en plâtre et trois statues de la Vierge, de Saint-Joseph et de Saint-Louis de Gonzague, patron de la jeunesse catholique. Elle est bénie le 19 novembre 1861. Le projet de construire une chapelle digne de la maison revint à l'ordre du jour en 1882 et l'emplacement choisi. Le premier projet d'un édifice de style néo-gothique est refusé. L'architecte abandonne le projet. Pourtant, les matériaux arrivent, offerts par de généreux donateurs, ainsi que des sommes pour parer aux dépenses de main-d'œuvre. C'est après une succession de rebondissements et l'intervention d'un mécène de Rouen que l'architecte Levallois Hauque réalisera les plans et que le travail pourra commencer en mars 1883. Cette chapelle sera achevée et bénite en mai 1885. En 2008, elle a subi une transformation importante. Sa conservation a été décidée au prix d'une transformation en cantine scolaire. Cette modification a été bien pensée et bien réalisée puisque l'intégralité du bâti et du décor ont été préservées tout en faisant les modifications adaptées à sa nouvelle fonction. Ici se posent fréquemment les mêmes questions. Doit-on tout préserver? Peut-on tout préserver? Comment doit-on préserver ce qui a été retenu? Par ma troisième question, vous doutez bien de ma réponse aux deux autres. Ceux qui veulent tout conserver se limitent en général à des paroles non suivies d'actes. Un nombre important d'édifices a été sauvé de la démolition parce qu'ils ont été transformés et utilisés à d'autres fonctions. Ceci répond à une constante. La préservation d'un édifice est liée à sa vie. Un bâtiment fermé, même en bon état initial, se dégrade rapidement. Je ne vais pas pousser à transformer les chapelles en granges, étables, garages et autres bâtiments de service. Par contre, face à l'alternative d'une disparition, je préfère voir une chapelle se transformer en école de musique, comme à Ernée, en salle d'exposition, comme à Mayenne et Château-Gontier, ou en centre de documentation, comme à Laval ou lycée Ambroise Paré, plutôt qu'en remblai, comme la chapelle de Saint-Michel du Cimetière-Dieu à Laval. À la semaine prochaine.